12h, 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau.
Ce sont deux expositions inédites et inévitables que nous avons mises au programme de ce débat critique ce midi. Nous irons d'abord au musée d'Orsay célébrer le 150e anniversaire de la naissance du mouvement des impressionnistes, une exposition qui revient sur la célèbre exposition de 1874 qui a fait date. Lui n'était pas né en 1874, mais il va aussi marquer l'histoire et l'évolution de l'art moderne. Le peintre Auguste Herbin est exposé pour la première fois à Paris au musée Montmartre. Vous saurez tout sur lui dans un instant. Grâce à qui ? Grâce à nos critiques. Bonjour Sally Beaune.
Bonjour.
Maître de conférence en esthétique à l'université Picardie, Jules Verne, autrice, critique d'art et commissaire d'exposition. Bonjour Stéphane Coréard.
Bonjour Nicolas.
Commissaire d'exposition également, critique et directeur artistique de la galerie Levenco à Paris. Soyez tous les deux les bienvenus dans les Midi de Culture. Direction du musée d'Orsay pour cette exposition Paris 1874, inventer l'expressionnisme, l'impressionnisme, évidemment, ça fallait que ça arrive, c'est jusqu'au 14 juillet.
Auditeurs éventuels, si vous le voulez bien, je vais vous parler aujourd'hui de peinture et vais vous raconter des histoires de peintres. Et puisque j'ai cité le nom de Claude Monet, laissez-moi vous le raconter. Ayant eu la joie de déjeuner un jour avec Auguste Rodin et Claude Monet, j'ai noté ce dialogue qui nous a tous émus. C'était au moment où l'on devait passer à table et Rodin s'effaçait devant Claude Monet. Passe, mais non, toi, non, tu es le plus vieux. Mais qu'est-ce que tu en sais? Voyons, je suis de 40, mais moi aussi. Moi, je suis de novembre, mais moi aussi. Oui, mais attends, moi, je suis du 13, mais moi aussi. Et ils sont passés à table bras dessus, bras dessous.
Et on continue en 2024 de raconter, encore comme Sacha Guitry en 1944, des histoires de peintres et des histoires d'expositions qui ont marqué l'histoire de la peinture. Comme celle qui fit date en le 15 avril 1874 au 36 boulevard des Capucines dans l'ancien atelier du photographe Nadar. Une trentaine d'artistes décident de s'exposer, leur point commun à vouloir sortir de la peinture classique, de l'académisme et des circuits officiels. Nous sommes 15 jours avant l'ouverture du salon avec un grand S. Un S majuscule, ce salon où les peintres exposent habituellement. Factuellement, l'exposition est assez minime, 200 œuvres, 4 seulement seront vendues, quelques milliers de personnes la visiteront, la presse sera bien ironique, sauf que cette exposition aura un fort retentissement, elle marque la naissance des impressionnistes. Ce mouvement, donc, 150 ans plus tard, une exposition que le musée d'Orsay a tenté de reconstituer, jamais personne ne l'avait encore fait, inventer l'impressionnisme, réuni jusqu'au 14 juillet, les œuvres de Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Sisley ou Cézanne, avec l'ambition de porter un regard neuf sur cette période, donc Paris 1874. Sally Beaune, est-ce que ce Paris est réussi ?
Oui, alors c'est une exposition qui est assez intéressante dans sa dimension historique et didactique, parce que c'est, vous l'avez évoqué Nicolas, c'est l'histoire de la naissance d'un mouvement. C'est aussi l'histoire d'une exposition et d'une exposition indépendante qui se forme contre ou à côté ou en regard du fameux salon qui chaque année exposait la peinture académique. Et puis c'est aussi l'histoire de la manière dont des artistes en fait s'associent puisque c'est ils forment une société anonyme, ils ont envie de fabriquer quelque chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit un peu apparaître dans l'exposition, c'est que c'est pas tant de vouloir faire mouvement. Et vous avez évoqué la liste des artistes, mais il y en a d'autres dans l'exposition. Il y en a d'autres dans l'exposition qui soi-disant est l'exposition des impressionnistes. Mais en fait, c'est pas l'exposition des impressionnistes. C'est-à-dire qu'on voit des tableaux qui ont été refusés ou qui n'étaient pas pris par le salon et qui, en fait, commence à faire apparaître ce qu'on va voir et ce qu'on connaît de la peinture impressionniste, c'est-à-dire cette touche particulière, cette impression, effectivement, cette capacité à rendre compte d'une atmosphère, d'une sensation de l'espace, d'une sensation du mouvement, de la nature, du plein air, tout ça est évoqué. Donc le pari de l'exposition Paris 1874 inventer l'impressionnisme, c'est ce qui me semble intéressant. Et j'évoquais cette dimension didactique, c'est que c'est aussi une exposition qui raconte l'histoire du goût. C'est-à-dire que on pourrait croire qu'on va voir tout d'un coup ceux qui étaient refusés et ceux qui étaient dans les peintres académiques et les peintres non académiques, avec cette image ou cet imaginaire qu'on aurait que les peintres non académiques sont ceux qui sont d'avant-garde et qui donc vont faire l'impressionnisme. C'est pas aussi simple que ça, et c'est ce que montre plutôt assez bien l'exposition. On pourrait aussi se demander si cette histoire du goût ne favorise pas justement les meilleurs artistes. C'est en fait une question que pose l'exposition. Hein. Pourquoi est-ce que des artistes disparaissent?
On évoquera ça avec Auguste Herbin.
Mais au fond, on se promène dans l'exposition et notre œil est immédiatement attiré par les Sisley, notamment parce qu'ils sont extrêmement beaux. Quelques Pissarro, les Degas et les Monet. D'autres artistes qui n'étaient pas académiques au sens où ils n'étaient pas dans le salon étaient quand même... ont disparu de l'histoire de l'art, sans doute à juste titre.
Stéphane Correa, l'idée de l'exposition, c'est de reconstituer en quelque sorte cette exposition de 1874, même si on en a peu de traces, il n'y a pas de photos, on a juste quelques descriptions de l'époque. Est-ce que vous, en visitant cette exposition, vous avez été surpris, vous avez appris des choses, vous vous êtes dit « Ah, j'avais pas pensé à ça en pensant aux impressionnistes ».
Oui, alors vous l'avez dit, reconstitution, effectivement, ce serait très exagéré. Invention ou réinvention, puisque effectivement, d'ailleurs c'est assez passionnant dans l'exposition, on peut feuilleter virtuellement le catalogue de l'exposition, qui est en fait une plaquette dans laquelle il n'y a effectivement que les titres des œuvres, ce qui fait qu'on ne sait même pas si c'était des toiles, des gravures, puisqu'il y en avait, des sculptures, des pastels. Il n'y a pas les formats, donc les commissaires ont fait un travail en fait d'interprétation, où ils ont retrouvé des œuvres, des mêmes sujets, des mêmes artistes, et ils font le postulat, si on regarde sur les cartels ou dans le catalogue, il y a écrit possible numérotant de l'exposition, possible numérotant, mais en fait, il y a très très peu d'œuvres dont on sait précisément quelles étaient là. Donc le projet de l'exposition, finalement, c'est de nous plonger, nous, visiteurs de 2024, dans l'atmosphère artistique du Paris de 1874. D'ailleurs, on apprend dans le catalogue que le projet de départ était même plus vaste. En fait, c'était de montrer un peu toutes les expositions, tout ce qu'un visiteur aurait pu voir, finalement, à Paris en 1874. Ça se focalise, finalement, sur une opposition entre le salon et cette exposition de la Société Anonyme. Et ce qui est évidemment passionnant, c'est que ça nous renvoie, nous, regardeurs d'aujourd'hui, à cette question, finalement, un peu comme on pourrait se poser la question pour la guerre, de quel côté on aurait été, finalement. Est-ce qu'on aurait été du côté de ceux qui allaient, des 3500 seulement, qui sont allés voir les impressionnistes, enfin l'exposition de la Société Anonyme, ou est-ce qu'on aurait été du côté des 300 000 qui sont allés voir le salon? Est-ce qu'on aurait été du côté des 4 qui ont acheté une œuvre, effectivement, dans cette exposition, ou des 160 qui ont acheté une œuvre au salon? Alors là, je trouve qu'effectivement, la réponse s'impose parce qu'aujourd'hui, avec notre regard, 150 ans après, on fait un tri très rapide. Mais en même temps, moi, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise dans le sens où c'est très facile de se dire qu'on aurait été du camp,
du bon côté,
du bien, si vous voulez. Mais d'ailleurs, je le dis de manière très factuelle, mais nous, par exemple, ici, sur France Culture, on parle d'expositions dites blockbuster dans les grands musées. On n'aurait pas parlé de l'exposition impressionniste de 1974, on aurait parlé du salon.
Clairement.
Et donc, je pense que c'est pas si simple que ça. Et c'est là où l'exposition, à mon avis, se referme un peu comme un piège, à la fois sur les commissaires, sur le musée et sur les regardeurs. Et c'est ça qui, finalement, est assez passionnant. Je dis sur les commissaires, effectivement, parce que c'est un fait assez unique. La commissaire principale de l'exposition, Sylvie Patry, qui était en poste à Orsay au moment où elle a pensé l'exposition, est partie depuis dans le privé. Elle est directrice artistique de la galerie Ménour. On lui a laissé le commissariat de cette exposition. Et la galerie Ménour, pour moi, c'est un des temples de l'académisme d'aujourd'hui et des artistes pompiers. C'est cet art, justement, financiarisé, spectaculaire, mondialisé, contre lesquels les impressionnistes se sont battus. Donc, je trouve que là, il y a une sorte de hiatus. Le musée lui-même, effectivement, ça nous rappelle, et je l'ai déjà rappelé à ce micro parce qu'on l'a un peu oublié pour les plus jeunes générations, mais on a beaucoup accusé le musée d'Orsay. Le péché originel du musée d'Orsay, finalement, c'est d'avoir réhabilité les pompiers, parce que comme les pompiers font des très grands tableaux et les impressionnistes plutôt des petits tableau, eh ben, il y a eu ce déséquilibre qu'à un moment donné, les plus grandes cimaises, les plus grandes salles sont données à ces artistes académiques. Et j'ai noté une phrase, par exemple, du peintre Pierre Alechinski, qui à l'ouverture d'Orsay avait dit « Gauguin s'y retrouve dans une chambre de bonne, tandis que Thomas Couture, au parloir, ramasse la mise en bousculant Courbet ». Et effectivement, donc, le musée d'Orsay ne fait pas tellement ce travail critique, mais en tant que regardeur, moi, j'y pense. Et puis, pour le public, parce que ça a été noté par un de nos confrères, mais si vous regardez le public, il passe plus de temps dans la partie salon que dans la partie impressionniste. Et finalement, il est un peu perdu. Alors, c'était peut-être la volonté des commissaires, en faisant ce cheminement qui est un petit peu... qui commence par les impressionnistes et finit par les impressionnistes, mais où toute la grande partie des grandes salles du milieu sont effectivement consacrées au salon. Il y a des artistes, pour la plupart, plus académique, même si, comme l'a dit Sally Bones, c'est plus complexe que ça, parce que, par exemple, Manet veut absolument exposer au salon, et pas avec les indépendants, qui pourtant se réclament de lui. Pareil pour Eva González, qui est une, je trouve, des artistes qui sort en majesté de cette exposition, qui est son élève. Ce qui est très injuste aussi dans le système du salon, finalement, c'est que les tableaux sont soumis à un jury de peintres médaillés, etc., qui ne justifie pas ses choix, et choisit pas des artistes, ou pas d'ailleurs, mais des œuvres, ou pas. Ce qui fait que Manet, par exemple, et on le voit là, et ça c'est passionnant, a un tableau accepté, un tableau refusé. Le tableau refusé n'est pas spécialement plus audacieux que le tableau accepté. Et il y a une espèce d'arbitraire, et finalement, c'est contre ça que les artistes ont voulu se battre, et avec ça qu'ils ont voulu rompre, en faisant finalement leur propre exposition, où, et ça c'est le fait nouveau, les artistes pouvaient choisir ce qu'ils envoyaient eux-mêmes, en fait, sans se soumettre à une censure préalable.
Sally Bones, on voit évidemment le tableau clé de l'exposition de 1874, Impression soleil levant de Claude Monet, cette vue du port du Havre. Comment est-ce que ce tableau-là est présenté dans l'exposition, et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre, effectivement, si on n'a jamais vu de tableau impressionniste devant ses propres yeux? Est-ce qu'il faut y aller au moins pour ça?
Il faut y aller pour ça, oui. On voit la peinture impressionniste en majesté, avec beaucoup de tableaux de Monet. Vous avez cité les artistes, des Degas, des Sisley, qui sont vraiment très beaux, des Pissarro, une série de coucher de soleil absolument flamboyant de Monet, mais aussi mise en regard de pastels et d'aquarelles de Boudin, qui sont très belles. Alors, ce qui est intéressant, je voudrais revenir un peu sur cette question du rapport salon exposition impressionniste, dite impressionniste, mais en fait
indépendant et académique.
Oui, en fait, indépendant et académique, mais un, c'est pas si simple que ça. Et effectivement, je suis d'accord avec Stéphane Courréard, un des tableaux de Eva González est absolument splendide. Hein, c'est qui a été refusé au salon, qui est une loge aux Italiens, qui date d'ailleurs de 1874. Mais ce qui est intéressant aussi sur cette question de la financiarisation dont vous parliez tout à l'heure, Stéphane, c'est que ce geste d'indépendance, de rassemblement des artistes pour pouvoir montrer leur œuvre, parce qu'en fait, ils sont refusés ou pas refusés, ils savent pas vraiment pourquoi, mais c'est aussi pour les vendre, en fait. Hein. Et donc, ce geste d'indépendance est aussi au sens où on parle la formule de Baudelaire, hein, le peintre de la vie moderne, c'est-à-dire cette modernité de la peinture qui va avec le mouvement de la vie, mais qui va aussi, en fait, avec l'extériorité, c'est-à-dire peindre en plein air et montrer l'industrialisation qui se fait, mais c'est aussi pouvoir vivre de sa peinture, pouvoir la vendre, pouvoir être dans un rapport aussi avec la critique qui est un peu différent. Et c'est assez intéressant, en fait, de l'exposition dans cette dimension-là, en fait, qui montre que on n'est pas seulement face à des tableaux, on est aussi face à des stratégies de la part des artistes pour pouvoir à la fois montrer leur travail, le vendre, le diffuser aussi, hein, c'est-à-dire le faire voir, tout simplement. Et ça, c'est une chose intéressante de l'expo.
Être un artiste à la fin du 19e siècle, en quelque sorte, Stéphane Correa.
Oui, alors la dimension historiographique de l'exposition est effectivement très réussie. Elle est d'ailleurs même peut-être un peu trop développée dans le catalogue. En revanche, moi, le reproche que je fais à cette exposition, c'est de ne pas assez faire confiance aux œuvres elles-mêmes, en fait. Le passage que Sally Bones à saluer, qui est effectivement cette salle minuscule mais absolument éblouissante où il y a Impression soleil levant, le tableau de Monet, et puis effectivement 5 pastels de Boudin et 3 pastels de Monet très peu connus à mon avis, parce qu'on connaît les toiles de Monet mais très peu ces pastels qui sont vraiment des références directes à Boudin. Ça, c'est un des moments éblouissants. Il y a aussi des artistes parfois moins connus, on a parlé d'Eva González, mais il y a Giuseppe De Nittis, un italien, et qui danse dans une salle. Il y a notamment 3 petits tableaux d'études de pente du Vésuve ou des qui sont des merveilles. Je pense que votre invité la semaine dernière, Thomas Levillan aurait pu les revendiquer. Il y a comme ça quelques moments où c'est vraiment les œuvres qui parlent, et je trouve que souvent, malheureusement, le parcours d'exposition se fait au détriment des œuvres. Mais c'est vrai aussi pour le salon, parce que dans le salon, il y a des tableaux qui sont très étonnants. Il y a un tableau d'Alma Tadema, qui est la mort du premier-né du pharaon, qui est un tableau dans un camailleux de doré et de beige, qui est un tableau d'une grande modernité, mais là, il est étouffé sous le reste, et je trouve qu'aujourd'hui, justement, 150 ans après, on aurait plutôt attendu, à mon avis, d'oser faire ce tri finalement et d'amener le regardeur aussi dans ces zones grises, parce qu'effectivement ce qui est intéressant c'est que au salon il n'y avait pas que des croûtes, dans l'exposition impressionniste il n'y avait pas que des chefs-d'œuvre, il y a des tableaux aussi qui n'étaient pas là parce qu'ils ont été refusés, qu'on a pu mettre dans l'exposition des anonymes, des artistes qui ont exposé dans les deux, et ça c'est passionnant aujourd'hui avec un regard assez franc d'essayer de faire le tri.
Eh oui, on rit pendant les musiques. Paris 1874, inventé l'impressionnisme jusqu'au 14 juillet. C'est au musée d'Orsay. Le catalogue est disponible en coédition Réunion des musées nationaux, Grand Palais, musée d'Orsay. Puis l'exposition partira ensuite à Washington.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau.
Et avant d'aller à Washington, direction le musée Montmartre à Paris pour découvrir les œuvres d'Auguste Herbin. C'est jusqu'au 15 septembre prochain.
Un événement artistique. La présence au Salon d'automne de Lyon, présidé par André Mur, d'une salle consacrée à l'op art. L'op art, qui semble avoir succédé dans l'engouement de l'avant-garde au pop art, n'est pas une affaire tout à fait nouvelle, puisque l'exposition comprend quelques grands anciens. Harpe, dont on a vu de relief, Sonia Delaunay, Herbin, dont la géométrie colorée possède des vertus de méditation joyeuse.
En 1965, 5 ans après sa mort, on continue de mettre à l'honneur ce peintre, ses vertus de méditation joyeuse, comme on vient de l'entendre, et de souligner la place d'avant-gardiste d'Auguste Herbin. Avant, peu à peu, eh bien de le laisser tomber dans l'oubli, jusqu'à ce que le musée Montmartre Jardin Renoir de Paris décide donc de redonner des couleurs à ce peintre présenté comme le secret le mieux gardé de l'aventure de l'art moderne dans le catalogue de l'exposition. C'est sa toute première rétrospective dans la capitale, là où il a créé durant toute sa vie, là où il a traversé des périodes de création radicale, post-impressionnisme, fauvisme, cubisme, figuration, abstraction. Il n'a cessé de se remettre en question et d'innover, jusqu'à inventer d'ailleurs son propre alphabet plastique en 1942, composé de 5 formes géométriques, de 26 lettres de l'alphabet, des 7 notes de musique et d'un ensemble de couleurs, car la couleur est très importante pour Auguste Herbin, le maître révélé, c'est le titre de l'exposition. Vous est-il, Stéphane Coréard, apparu dans cette exposition justement ?
Oui, d'abord, j'ai été très surpris que ce soit la première rétrospective parisienne d'Auguste Herbin, qui est quand même un artiste considérable. Donc, il faut saluer le travail du musée Montmartre, qui d'abord est un lieu magique, enchanteur. Vraiment, j'incite absolument nos auditeurs à s'y rendre. En plus, la programmation est remarquable. Effectivement, on voit des expositions qu'on ne voit pas ailleurs et qui, à mon avis, font un vrai travail de service public. Donc, il faut le dire et le saluer quand c'est le cas. Notamment, cette rétrospective, effectivement, consacrée à un artiste majeur qui a participé à plusieurs avant-gardes du XXe siècle, le fauvisme, le cubisme, l'abstraction, et qui est peut-être mal aimé justement pour cette raison, c'est-à-dire qu'il est allé tellement loin qu'il a effectué, à mon avis, c'est un cas quasiment unique dans l'art du XXe siècle, 2 allers-retours complets entre figuration et abstraction. D'habitude, beaucoup d'artistes, si vous voulez, qu'on connaît au XXe siècle, en ont fait 1,5, c'est-à-dire qu'ils ont commencé effectivement figuratif, ils sont passés par l'abstraction, et puis pour certains d'entre eux, comme Jean Hélion, qu'on voit en ce moment au Musée d'Art Moderne de Paris, ou Philippe Guston, qu'on a vu récemment à la Tate, eh ben, ils reviennent à la figuration, mais plein des enseignements, finalement, que ce passage par l'abstraction leur a conféré. Lui, il a fait 2 allers-retours, comme je le dis, c'est-à-dire qu'il commence ce qu'on voit dans l'exposition quand il a une 20aine d'années post-impressionniste, il y a des tableaux rayonnistes, post-impressionnistes très beaux, mais c'était 10 ans après le post-impressionnisme. Ensuite, il est fauve en 1906, c'est 1 an après le fauvisme. Ensuite, il est cubiste en 1908, c'est 1 an après le cubisme. Il y a une espèce d'effet retard un peu chez Herbin à ce moment-là. Il est abstrait en 1918, c'est très tôt pour un Français, mais c'est quand même 10 ans quasiment après les premiers tableaux abstraits de Kandinsky. Dans les années 20, il y a une brève période dite du retour à l'ordre, hein, d'une figuration classique, on va dire, mais là aussi, Picasso a commencé quelques années avant. Et puis en 31, il redevient abstrait, définitivement abstrait, je dirais, il invente effectivement son alphabet plastique, et à ce moment-là, il est le seul abstrait français, quasiment, et en revanche, après la guerre, il y en aura beaucoup d'autres. Le grand malentendu, je pense, est là, concernant Hervin, c'est-à-dire, est-ce que c'était un précurseur ou un suiveur? Tout dépend du point de vue. De ce point de vue-là, l'exposition, si je puis dire, ne lui rend pas justice, puisqu'elle l'isole, finalement, de ce contexte. Tous ces parallèles que je viens de faire et de date, si vous voulez, ne sont pas présents en tant que tels dans l'exposition. Ce qu'on voit, en revanche, et c'était intéressant de citer justement l'art optique dans le son que vous avez mis avant qu'on commence, parce qu'effectivement, là où c'est un réel précurseur, c'est évident, c'est pour quelqu'un comme Vasarely, l'écurie des artistes de Denise René, après la Deuxième Guerre mondiale, Vasarely a témoigné en disant « Hervin, en 1948, était un dieu pour Jean Devanne et pour moi ». Pourquoi est-ce qu'il était un dieu et pourquoi il a été si précurseur? D'abord, vous l'avez dit, l'alphabet plastique qui fixe des correspondances entre des formes, des couleurs d'une part, des lettres, des sons d'autre part, qui a directement inspiré ce que Vasarely ensuite a appelé son folklore planétaire, c'est-à-dire une grammaire finalement optique et cosmique qui puisse rendre possiblement compte du monde dans son entièreté. Et puis ensuite, dès 1919, il écrit à Albert Gleizes, qui est un autre cubiste, « L'art ne peut être que monumental ». Et là, il y a cette courte période qui est mal connue parce qu'elle n'a pas eu de succès et il a arrêté assez vite, des objets monumentaux de la fin des années 1910, qui sont des peintures à fresques, reliefs, objets, meubles, qui sont... Alors pour le coup, absolument contemporain, voire légèrement avant les recherches du Bauhaus sur l'intégration de l'art, justement, dans le design, dans l'architecture, et qui anticipe aussi ce que Vasarely, toujours lui, appellera ses intégrations monumentales, qui est une utopie architectonique. Donc là, c'est vraiment un artiste, pour le coup, c'est sa part entière, son apport à l'histoire de l'art.
Sally Bonne, elle lui redonne vraiment des couleurs, cette exposition. Elle nous éclaire sur qui il était, et effectivement, sur toutes ces périodes de création qui se sont ajoutées tout au long de sa vie.
Alors, des couleurs, c'est le mot, parce que c'est la caractéristique quand même de la peinture d'Hervin, c'est justement son rapport à la couleur, qui dans toutes les formes expérimentées, que ce soit dans tous les styles par lesquels il passe, on les a cités, post-impressionnisme, fauvisme, cubisme, figuration, pour un retour, je sais pas, à l'abstraction, ce qui frappe, c'est justement le rapport à la couleur. Et notamment, il me semble que peut-être que la raison pour laquelle Hervin a été peut-être oublié, il y en a sans doute plein, mais l'une, je suis d'accord avec Stéphane là-dessus, c'est aussi cette espèce de permanente inventivité qui aussi, en regard des mouvements artistiques eux-mêmes, pose question en termes d'histoire. Mais c'est quand même cette espèce de mouvement permanent dans lequel il est.
Mais il trouve pas de place, il a pas peur d'aller dans...
Justement, explorer. À chaque fois, il est un peu insituable. Ouais. Et donc, c'est ça qui, je pense, l'a fait plus ou moins disparaître. Pour autant, ce que montre l'exposition, je trouve qu'en cela, elle est importante, c'est quand même une qualité picturale énorme. Hein. Et moi, j'ai été bouleversée par toute la période dite cubiste, notamment d'une salle qu'on appelle la salle des compositions, hein, qui précède un peu l'échec des œuvres monumentales, parce que en fait, dans ce désir d'inventivité, il va faire ses recherches comme ça sur des œuvres dites monumentales, mais juste avant, on est dans les années 13-14 et il compose des œuvres qui sont plus ou moins cubistes, mais qui sont comme des collages en fait, mais des collages picturaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tableau, il y a plusieurs tableaux dont un autoportrait ou un portrait de jeune fille, mais aussi un tableau incroyable qui s'appelle La famille, femme et enfant, qui est une sorte de collage en peinture où les vêtements, les meubles, le fond, la pièce dans laquelle ils sont installés sont en fait des morceaux de motifs picturaux qui sont agencés. Et ce tableau est assez extraordinaire, notamment à la fois dans sa composition et dans sa couleur. Et pour revenir sur cet alphabet plastique d'Hervin, en fait, ce qui est assez fascinant, hein, dans ce rapport qu'il fait entre des lettres, des sons, des formes, etc. J'en avais noté quelques-unes, mais E, c'est rouge, c'est une forme sphérique, et c'est un do. Le L, c'est jaune citron, c'est une forme triangulaire, et la sonorité, c'est un mi.
Là, ça permet quoi, cet alphabet, alors, justement?
Ça lui sert à composer des tableaux, en fait. À un moment donné, son abstraction, c'est ce qu'on connaît le mieux, d'ailleurs, de sa peinture et de son œuvre, son abstraction... c'est un vocabulaire qu'il invente, et ce vocabulaire doit lui servir à rendre compte de son rapport au réel dans sa totalité. C'est-à-dire, il y a une dimension aussi synesthésique, comment, en fait, on regarde, on entend, on sent, on touche, on voit, et tout ça, en fait, vient est projeté sur la toile. Mais il me semble que cet alphabet plastique, finalement, il est comme le résultat de l'ensemble de ses recherches. C'est-à-dire que ce que montre l'exposition, c'est que le post-impressionnisme, le fauvisme, le cubisme, peut-être le retour à la figuration, finalement, vont lui permettre de produire cet alphabet plastique qui en est comme le résultat ou la conclusion.
Stéphane Coréard.
Comme il est coupé de son temps, justement, le mérite de l'exposition, c'est de montrer sa singularité. Donc la couleur, effectivement, Sally Bonne l'a dit, mais moi, il y a des choses qui m'ont frappé, auxquelles je ne m'attendais pas. C'est une forme de naïveté, en fait. C'est un primitif, au sens où, dans ces années-là, dans les années 20, on parlait de Denis Rousseau, par exemple, c'était des primitifs modernes. Il est proche d'une forme d'art populaire. D'ailleurs, beaucoup de gens qui l'ont défendu, comme Wilhelm Oude ou Jakowski, étaient eux-mêmes des amateurs d'art populaire. Et parfois, c'est comme ça, par exemple, dans ce qu'on appelle son retour à l'ordre, si on regarde ces joueurs de boules, ou encore plus le chemin du bon ange à Vaison-la-Romaine, on est quelque part chez le Denis Rousseau. Mais ensuite, dans les phases abstraites, où il y a une espèce de totem avec des jeux assez savants sur la symétrie, on n'est pas loin des tableaux spirites d'Augustin Lesage, par exemple, ou de Crépin. Et justement, c'est aussi la dimension qui m'a passionné, c'est la spiritualité, finalement, qui émane de cette œuvre. Quand il fait son alphabet plastique, d'ailleurs, il ne revendique pas le terme abstrait, il revendique le terme concret, comme beaucoup d'artistes de son temps. C'est aussi un peu, au départ, était le verbe, c'est-à-dire qu'en s'appuyant sur les lettres...
Un langage.
Un langage. Et l'idée, c'est que l'artiste est un créateur, finalement, à l'image du créateur. Et c'est ça, cette espèce de sérénité qui émane de son travail, et je trouve qu'il est extrêmement singulière dans l'histoire du XXe siècle, et c'est pour ça que c'était important de lui consacrer cette rétrospective.
Un mot sur sa carrière. Alors, en France, on l'a dit, il a été oublié au fur et à mesure des années. D'ailleurs, c'est très bien montré dans le catalogue, où au fur et à mesure des livres et des productions littéraires sur ces différentes créations, eh bien, on l'oublie, on le met de côté. Est-ce qu'il a eu une carrière à l'étranger?
Alors oui, et une carrière très importante, très tôt. En fait, c'est ça qui est assez étonnant et que montre l'exposition, c'est qu'on découvre qu'il va... D'abord, il voyage beaucoup, il commence par voyager beaucoup, et puis il expose beaucoup en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, aux États-Unis. Il est même à l'Armory Show. Enfin, il est sur la liste de l'Armory Show, mais il n'envoie pas de tableau. Enfin, et donc, son œuvre, voyage beaucoup. Et disparaît aussi progressivement.
Le maître révélé, Auguste Herbin, c'est au musée Montmartre-Jardin-Renoir jusqu'au 15 septembre prochain. Il faut aller le voir, le catalogue très coloré est disponible aux éditions Elviso. Merci à tous les deux, Stéphane Coréard, directeur artistique de la Galerie Lovenco à Paris, Sally Bonne, maître de conférence en esthétique à l'Université Picardie, Jules Verne. Ce débat est à réécouter sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.